Toujours à l'écoute du réseau FM+, les méandres de l'amour Eros et Agapé. Donc nous venons de terminer le chapitre sur l'affection familiale, la relation familiale, et puis cette belle chanson donc qui est vraiment clos
le chapitre. Une histoire de gens qui s'aiment, ou une histoire de gens qui s'aimèrent et qui jouèrent à la guerre, vous voyez. Donc cela correspond à ce que je viens de dire à l'instant. Pourquoi y a-t-il ces mésententes, ces ruptures, ces fissures d'abord, et puis ces tranchées béantes qui séparent les êtres, c'est quelque chose qui est tragique et qui se produit très souvent. Alors maintenant, nous allons envisager une autre piste, qui est celle de la découverte progressive que nous devons faire de l'autre, du partenaire dans une relation. C'est-à-dire, finalement, d'un amour qui arrive petit à petit, si vous voulez, par connaissance, progressive. Donc, finalement, c'est peut-être un bon moyen d'éviter tous ces drames qui éclaboussent toutes nos vies. Alors, figurez-vous, Redouane, que l'autre jour, il m'est venu la curiosité de regarder les articles du Code civil relatifs au mariage. Eh bien, nulle part, je n'ai vu qu'il était question d'amour. Par exemple, on lit à l'article 212 du Code civil, « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. » On ne nous dit pas qu'ils doivent s'aimer. Et à l'article 215, il est dit « Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie, etc. etc. » Il s'agit donc d'un contrat qui est publiquement conclu et qui précise les obligations mutuelles avec une grande partie consacrée aux enfants. Mais s'agissant de l'amour, je suis resté sur ma faim. Nulle part, le mot n'est prononcé. C'est une nécessité ou une obligation, par exemple, d'être fidèle, mais ce n'est pas une obligation de s'aimer pour ceux qui s'engagent ainsi. Alors, par conséquent, et ça c'est une parenthèse, vous savez que les homosexuels allèguent aujourd'hui le fait qu'ils s'aiment pour obtenir la possibilité de se marier. C'est un sujet très actuel chez nous aujourd'hui. Mais à mon avis, ils mélangent à des dispositions qui par nature l'ignorent, des considérations affectives totalement étrangères au sujet. Mais alors là, on pourra m'objecter que nous sommes tellement aujourd'hui habitués au mariage d'amour que les deux notions, le mariage et l'amour, nous semblent indissolublement liées. Or, il n'en a pas toujours été ainsi. Le mariage d'amour, le love marriage, comme on dit en anglais, est quelque chose de passablement récent. Et je pense que le romantisme, dans la première moitié du XIXe siècle, a fait beaucoup pour en introduire l'idée dans les esprits. Et jusque-là, en Occident, les mariages étaient arrangés. Alors là, Redouane, vous, grand voyageur, devant l'éternel, vous avez arpenté le monde. Eh bien, j'ai lu, moi je n'y ai pas été, qu'en Inde, par exemple, les mariages sont arrangés. Et on pense que si l'amour n'existe pas au départ, il pourra progressivement apparaître au fil du temps, quand les deux époux se connaîtront mieux. Et il me semble que c'est une option qui n'est pas méprisable. Qu'est-ce que vous en pensez, Redouane ?
Non, je suis tout à fait d'accord. Okay, et ça me fait penser à une citation de Delia Franck qui dit « Dans le mariage, on peut tenir sans amour, mais jamais sans affection. » Oui. Et je crois qu'effectivement, les couples, dans les mariages arrangés, c'est des mariages de raison. C'est la question de la procréation, la question de la cellule familiale, et puis l'affection vient. C'est-à-dire s'envenime la vie du couple quand il n'y a pas d'affection.
Voilà. Alors ce qui compte, à mon avis, c'est la connaissance progressive qu'on va faire de l'autre. Au départ, on ne connaît rien de l'autre. Il faut des années, et parfois une vie n'y suffit pas pour percer un peu le mystère de naître. Je pense à ce que dit Maeterlinck, à propos de Mélisande. Il dit « C'était un petit être mystérieux comme tous les autres, vous voyez ?» Et Musset, dans Fantasio, écrit « C'est tout un monde que chacun porte en soi, un monde ignoré qui vit et meurt en silence. Quelle solitude que tous ces corps humains, vous voyez ?» Donc, que l'amour puisse venir peu à peu tout au long de la vie n'est pas une idée toujours absurde. Et on retrouve là l'idée que j'ai déjà évoquée au début de notre série d'émissions, du mariage fait pour aimer quelqu'un et non pas parce qu'on l'aime, hein. Une perspective de finalité et non pas une perspective de causalité. Et ainsi, par exemple, pourtant au cœur même du mouvement romantique, Balzac a écrit un roman qui s'appelle « Les mémoires de deux jeunes mariés ». Et il y oppose deux amies d'enfance, l'une qui est raisonnable, qui fait effectivement un mariage de raison, et l'autre qui est exaltée et qui fait un mariage de passion. Eh bien, à la fin, c'est à la première que l'auteur donne raison. Elle est heureuse car elle a appris à estimer son mari, elle a connu l'importance de la maternité, tandis que son amie a connu les orages de la passion, les affres de la jalousie, elle s'est brûlée à cette même flamme qu'elle désirait connaître depuis son adolescence, et elle a vu s'écrouler tous les rêves qu'elle avait faits. Et la leçon de ce roman par lettres est la suivante, je cite, « En commençant la vie conjugale par une ardeur extrême, elle ne peut que décroître. » Je crois que c'est à peu près la même chose que dit Julie à Saint-Preux dans la nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau. Et alors le sujet de « Mémoire de deux jeunes mariés » de Balzac en est le même dans un autre roman du même Balzac qui s'appelle « La maison du chat qui pelote hein. ». Là il s'agit de deux sœurs, la raisonnable dans son mariage est finalement plus heureuse que l'exaltée. L'exaltée finit par mourir du choix qu'elle a fait. Donc je pense aussi aux deux sœurs qui présentent une différence identique, différence de caractère, dans le roman de Jane Austen, « Raison et sentiment », en anglais « Sense and Sensibility », qui a été porté à l'écran récemment. Il est repassé récemment, je crois, sur Arte, mais c'est un film qui a été porté à l'écran il y a une quinzaine d'années, hein, « Raison et sentiment ». Voilà. Donc, vous avez Emma Thompson qui incarne justement dans ce film l'héroïne raisonnable, et l'autre, c'est Kate Winslet, je crois, l'héroïne de Titanic, hein, qui incarne la jeune fille exaltée et pleine de rêves. Eh bien, il y a un danger, je crois, à avoir trop d'exaltation. Le choix, il est entre un incendie qui va nous dévorer et le calme d'une eau qui peut nous porter. Vous voyez ? Alors, évidemment, il y a une compatibilité entre les deux options. Voyez la leçon de la peau de chagrin du même Balzac, hein, la durée de notre vie est inversement proportionnelle à l'intensité de nos passions. Et J'y décrit dans les nourritures terrestres, hein, nos actes s'attachent à nous comme sa lueur au phosphore, hein. Ils font notre splendeur, mais ce n'est que par notre usure. Donc on a le choix entre une vie qui flambe, qui brûle, hein, mais qui peut être courte, hein, et puis au contraire une vie qui est plus pondérée, raisonnable, et qui peut durer davantage, hein, dans le temps. Prenez le cas d'Achille, c'est un héros dont tout le monde chante la gloire, mais il est mort jeune, en pleine gloire. Et aux enfers, dans l'Odyssée d'Homère, l'ombre d'Achille avoue à Ulysse son regret de la vie, même obscure, hein, dont un chien vivant vaut mieux que Achille mort, en quelque sorte, vous voyez. Donc l'idée d'une découverte progressive de l'autre n'est pas sans valeur. Hein. Le langage, les conversations quotidiennes concourent à cela. On peut connaître quelqu'un avec qui on parle longtemps. Vous savez, Redouane, il me semble qu'il est inutile et vain de demander à un amoureux, un disciple d'Eros, pourquoi sa partenaire lui plaît. Il ne le sait que trop bien, parce que le désir est sa propre réponse. Hein. Bon. Mais la question qu'il faut poser à un amoureux est celle-ci, pourras-tu parler avec elle tout le long de ta vie, vous voyez, hein. Et se parle avec elle, pour reprendre le titre du roman d'Almodovar, hein. Dites-le en espagnol, c'est habla
con ella.
Habla, voilà, je me régale de vous entendre parler espagnol, Edouane, que je ne connais pas l'espagnol moi-même. Hein, voilà, parler avec quelqu'un, c'est très important, et donc c'est apprendre à le connaître. Alors bien sûr, ces considérations nous donnent une direction de pensée, et il ne faut pas tout prendre littéralement. Je suis loin, bien sûr, de défendre toujours les mariages arrangés, hein, bien sûr. Il me semble qu'il faut au départ, dans une union, une inclination minimale. Et peut-être aussi, même si je n'en suis pas très sûr, une certaine harmonie ou correspondance des âges. Il me semble que Molière a eu raison de défendre les inclinations contre certains mariages arrangés. Mais enfin, je ne vois pas pourquoi on refuserait à l'amour mature un minimum de discernement, et c'est à quoi peut servir l'accoutumance au fil du temps. Alors autrefois, je ne sais pas si c'est le cas actuellement, autrefois, précédant le mariage, il y avait les fiançailles. Les fiançailles permettaient l'accoutumance. Alors je ne sais pas si cet usage perdure encore. Vous le savez, Redouane, ça existe des fiançailles encore. On pouvait les rompre comme on voulait autrefois, les fiançailles, si ça n'allait pas. Je ne sais pas si aujourd'hui...
C'est rare, je pense, parce qu'effectivement, il y a toute une cérémonie, il y a on dirait... oui.
On donnait sa parole, on pouvait la reprendre.
Voilà, c'était pas un engagement définitif.
Voilà. Alors, je ne sais pas si cet usage perdure, et si ce n'est pas le cas, je dirais que c'est bien dommage. Tout va très vite aujourd'hui, hein. Alors, on s'éprend, on se méprend, on se reprend. Voilà, aujourd'hui, hein. Donc, d'abord, on s'enlace, hein, on se serre l'un contre l'autre, et puis on s'en lasse. Hein. Voilà, donc on se lasse. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle le vagabondage amoureux aujourd'hui. Hein. Donc il n'y a plus de place pour ce temps des fiançailles. Non,
Edouard. Mais je pense que par rapport à la question de l'âge, c'est que effectivement pendant très longtemps, l'homme était beaucoup plus âgé.
Oui, c'est vrai.
Ce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est des jeunes, presque du même âge, qui se mettent ensemble. Oui. Et donc, la partie de fiançailles, c'est cette cohabitation, parfois, en tant qu'étudiant ou en tant que jeune travailleur, quand on démarre dans la vie. Mais je pense que ce déséquilibre des âges a changé la donne.
Oui, autrefois, il y avait des équilibres des choses. Prenez les patriarches bibliques, hein. Abraham et Agar, David et Abisac, Boaz et Ruth, par exemple. Bon, c'est le vieillard réchauffé par le corps d'une jeune fille, si vous voulez, hein. Zola a écrit un scénario calqué là-dessus dans Le Docteur Pascal, hein, dans le dernier tome de la série des Rougon-Macquart, hein. Longtemps, j'ai passé, Redouane, qu'on pouvait aimer à tout âge, mais qu'on ne pouvait s'aimer que si on avait le même âge. Je n'en suis pas sûr du tout maintenant, je ne sais pas, moi, c'est une grande question, hein, mais regardez par exemple des gens comme Picasso, ou bien comme
Charlie Chaplin,
voilà, vous me l'avez enlevé de la bouche, hein, voilà, donc finalement, ce thème qui apparaissait pourtant potentiellement tragique, hein, la différence des âges, n'est pas... Je ne sais pas. Il faut laisser la question ouverte, vous voyez. Je crois que rien n'est sûr à cet égard.
Il n'y a pas de frontière au sentiment.
Voilà, je crois. Hein, je crois que, on disait autrefois « turpe senilis amor », c'est-à-dire un mariage dans la vieillesse, un amour dans la vieillesse, quelque chose de honteux, vous voyez. Hein. Et regardez Mithridate de Racine, hein, « Ah, qu'il eût mieux valu, plus sage et plus heureux, et repoussant les traits d'un amour dangereux, ne pas laisser s'emplir d'ardeurs empoisonnées, un cœur déjà glacé par le froid des années », vous voyez. Hein. Donc, l'amour hors de saison était un thème tragique. Moi, maintenant, je ne sais pas. Je pense qu'on ne sait jamais le tout des choses. Mais, en tout cas, il me semble que l'idée de faire l'essai de nos sentiments, hein, dans le temps, c'est la pierre de touche, hein, qui nous permet d'en éprouver la valeur. Alors, j'ai choisi comme ce deuxième musique une chanson de Brassens qui s'appelle « Saturne » et qui nous représente ce que peut être un amour mature.
Il est morne, il est taciturne, il préside aux choses du temps. Il porte un joli nom, Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant. Il porte un joli nom, Saturne, mais c'est un dieu fort inquiétant. En allant son chemin morose pour se désennuyer un peu, il joue à bousculer les roses, le temps tue le temps comme il peut. Il joue à bousculer les roses, le temps tu le tends comme il peut. Cette saison, c'est toi, ma belle, qui a fait les frais de son jeu. Toi qui as payé la gabelle, un grain de sel dans tes cheveux. Toi qui as payé la gabelle, un grain de sel dans tes cheveux. C'est pas vilain, les fleurs d'automne, et tous les poètes l'ont dit. Je te regarde et je te donne mon billet qu'ils n'ont pas menti. Je te regarde et je te donne mon billet qu'ils n'ont pas menti. Viens encore, viens ma favorite, descendons ensemble au jardin. Viens effeuiller la marguerite de l'été de la Saint-Martin. Viens effeuiller la marguerite de l'été de la Saint-Martin. Je sais par cœur toutes tes grâces, et pour me les faire oublier, il faudra que Saturne en fasse loge de sablier. Et la petite pisseuse d'en face peut bien aller se rhabiller.
À l'écoute du réseau FM+, 91 MHz, et vous êtes sur l'agglomération Montpellier-Rennes, 103.1 Radio Alliance Plus sur Nîmes, toujours en compagnie de Michel Théron. Georges permet de... Oui.
Voilà, alors Saturne, c'est le temps, hein, Saturne. C'est le nom latin de Chronos, du Chronos grec, hein, qui dévore ses propres enfants. Vous voyez le tableau de Goya, hein. Donc, c'est vrai que c'est le grand ennemi de l'amour, hein, le temps, Saturne. Eh bien, malgré tout, on voit dans cette chanson de Brassens que l'amour peut résister au temps et acquérir une certaine maturité par, je dirais, apprivoisement de l'un à l'autre. Hein. Apprivoiser, c'est créer des liens. Apprivoise-moi, dit le renard au petit prince dans le récit de Saint-Exupéry. Qu'est-ce que ça veut dire apprivoiser? C'est créer des liens. Voilà. C'est le temps que tu auras passé pour t'occuper de moi. Par exemple, d'une rose. Hein. Bon, la rose... C'est le temps que tu auras passé pour t'occuper de la rose qui la fera si importante à tes yeux. Donc, il faut s'apprivoiser. Hein. Et là, le temps est nécessaire, vous voyez. Et à la fin, j'aime bien la dernière strophe, hein, la petite pisseuse d'en face comme, peut bien aller se rhabiller, comme dit Brassens. Hein. Ça veut dire que, bon, ben, si la jeunesse a tous les atouts apparents, eh bien, malgré tout, le reste, hein, c'est-à-dire cette vie commune et apprivoisée peut lui résister, si vous voulez. Ça me semble très important. Alors, dernier volet de notre émission, Redouane, aujourd'hui, mais nous commençons seulement, hein, c'est les rapports entre amour et connaissance. Nous l'avons abordé à l'instant, hein, connaître quelqu'un, c'est important, hein, avant de l'aimer. Hein. Donc, est-ce que l'amour s'oppose à la connaissance? Alors, faisons un petit peu de théologie, hein, peut-être provocatrice. Paul, l'apôtre Paul, affirme que l'amour agapé n'a rien à voir radicalement avec la connaissance. La connaissance, dans le texte grec, hein, c'est gnosis, hein, ce qui a donné le mot français gnose. Hein. Paul écrit « La connaissance enfle, mais l'amour édifie ». C'est dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 8, c'est le magnifique hymne. Hymne est féminin, hein, dans ce cas-là, sur l'agapé, sur l'amour. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, etc. Eh bien, Paul se comporte ici en gnosimac, c'est-à-dire un ennemi de la connaissance, de la gnosis, de la connaissance. Hein. Voyez ce qu'il dit aussi, toujours en 13, chapitre 13, verset 2, « Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, toute la gnosis, hein, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et enfin, toujours dans le même chapitre 13 au verset 8, « L'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. » Vous voyez, la connaissance disparaîtra. Alors, vous savez, Redouane, que je ne suis pas très paulinien. Vous en doutez.
Oui, mais moi, je me retrouve, parce que c'est pas seulement la connaissance, il parle aussi de la foi. C'est-à-dire, en fait, pour lui, ce qui fait sens, ou qui donne sens à la pensée et à la foi, c'est l'amour. Par exemple, on voit aujourd'hui les extrémistes, les fondamentalistes de tout poil, ils n'ont pas d'amour pour l'autre. Ils ont la foi, mais on ne sait pas en quoi.
Ah oui,
et je dirais même en foi en Satan plutôt qu'en foi en Dieu. Mais il n'y a pas d'amour de l'autre, il n'y a pas. Et c'est la même chose, c'est-à-dire la sagesse. On le voit dans les témoignages d'anciens élèves par rapport à leurs professeurs. C'est-à-dire, ils ont senti qu'il y a de l'amour. C'est-à-dire dans l'enseignement, dans la transmission et cette connaissance du coup, ils s'en sont appropriés. Par amour, parce qu'il y avait quelque chose de l'affection.
Oui, on intéresse un public que si l'on est soi-même passionné. Hein. On ne va passionner les autres que si on est soi-même passionné et si les autres nous sentent comme tels. Hein. Donc, ce que l'on a en soi se communique par une espèce de contagion empathique, en quelque sorte. Hein. Oui, là, c'est très intéressant, Redouane. Je n'avais pas pensé à ça. La foi ne suffit pas. Il faut que la foi soit éclairée par l'amour. On dit toujours qu'on ne se sauve par la foi. Mais non, il faudrait dire qu'on se sauve aussi par l'amour. Il faut,
Oui.
Eh ben, c'est dommage, on ne le dit pas assez, ça. On dit le salut se procure sola fide, par la seule foi, mais il faudrait dire aussi par le seul amour. Hein. Voilà.
Ce qui sauve le malheureux sur le bord du chemin, c'est le Samaritain. C'est pas la foi. La foi des trois premiers qui passent, c'est des gens qui sont de profonds croyants. Et c'est pas par négligence, mais justement par respect à leur foi, ils ne veulent pas devenir impurs en touchant ce blessé. Et le troisième qui fait fi de l'impureté, lui par amour pour le prochain, va le sauver.
Oui, mais moi je trouve que c'est un éclairage très nouveau pour moi, et c'est très intéressant, parce que la foi toute seule, ça peut être la foi du charbonnier, c'est-à-dire une foi naïve, qui ne réfléchit pas, etc., ce qu'on appelle la foi du charbonnier, vous voyez.
Ça fait du bien de temps en temps.
De temps en temps, oui. Mais bon, on dit charbonnier maître chez lui aussi, mais je dis sauf s'il est marié, parce que dans ce cas-là, il n'est pas maître chez lui. Non, les proverbes, c'est la sagesse des nations, mais cette sagesse parfois est très problématique. Quand même, vous voyez, Redouin, je défendrai aussi la gnosis, la connaissance, même si Paul ne l'aime pas. Hein. Par exemple, il nous dit dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 19, « L'amour de Christ surpasse toute connaissance. » Vous voyez. Et alors, dans l'Épître à Timothée, on ne sait pas si elle est de Paul. Hein. Chapitre 6, verset 21, on a la phrase suivante, « Ô Timothée, garde le dépôt. » En évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse connaissance, vous voyez, l'expression littérale est de la pseudo-connaissance ou de la gnose au nom menteur, en grec, tes pseudonymou gnoseos, vous voyez. Et on sait que le livre essentiel d'Irénée de Lyon, dirigé contre toutes les hérésies, rédigé un siècle plus tard, s'appelle aussi « Dénonciation et réfutation de la gnose au nom menteur ». Alors vous voyez ici que le christianisme de la connaissance, précisément la gnose, dont les intuitions, à mon avis, sont psychologiquement très fines et profondes, et très éclairantes pour bien comprendre l'amour vrai, j'y reviendrai, ce christianisme de la connaissance a été connu très tôt, puisque les textes primitifs, ceux de Paul et ceux des auteurs des autres épîtres, font mention de la gnose, même si c'est pour la critiquer, cette gnose. Donc, finalement, cette gnose qui m'est si chère, nous avons consacré l'année dernière une série d'émissions sur l'évangile selon Thomas, hein, qui a des traits évidemment gnostiques, c'est quelque chose de très très ancien. Alors, je sais bien qu'il est très bien porté d'opposer amour et connaissance, de dire que l'amour est inconditionnel, qu'il y a prééminence en lui de l'élan affectif, ou de l'empathie, de quelque chose d'immédiat, hein. Et on oppose la connaissance, qui serait plutôt la prudence, qui dévoluerait un rôle à la réflexion, hein, et qui pourrait mener peut-être à l'atermoiement, voire à la paralysie. Vous voyez, trop connaître pourrait nous empêcher d'agir. Tenez, Redouane, je vous pose une colle. Sens d'un mot. Quel est le sens d'un mot, comme au jeu des 1000 euros, le sens du mot procrastination? Le connaissez-vous?
Oui, parce que je fais constamment.
Ah, très bien. Voilà, très bien.
Je vous fais constamment.
C'est le fait de remettre au lendemain.
Le lendemain,
alors, la
date crasse, hein, oui.
Ce que l'on devrait faire aujourd'hui, hein. Voilà. Donc, un humoriste disait, le mariage est une chose si importante qu'il faut y songer pendant toute sa vie, vous voyez. Voilà, donc le remettre toujours, remettre au lendemain, hein. Bon, donc remettre au lendemain les choses, hein. Non pas ce qu'on peut faire avec une seule main, si vous voulez, mais voilà. Alors on dit que la connaissance, justement, nous paralyse. Eh bien, moi, je la défendrai. Alors j'ai choisi comme dernier morceau musical un chanteur que vous aimez bien, Redouane, que j'aime bien moi aussi, c'est Jacques Brel, dans une laquette, hein, qui est de son opéra dédié à Don Quichotte. Hein. Mais il y a une phrase qui ne me plaît pas, on y pourra y revenir lors de la prochaine émission, aimer, même trop, même mal, vous voyez. Or, je pense quand même que quand on apprend justement à connaître ses possibilités, il faut savoir aussi aimer, ça prend. Voilà.
Alors on sera obligé de revenir dessus, enfin obligé, on se fera plaisir de revenir la semaine prochaine, mais on se quittera sur cette quête. Merci Michel, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer toujours sur ce chapitre de la connaissance.
Au revoir à tous.
Au revoir.